Vous écoutez France Culture.
Deuxième temps d'une semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire sur le génocide des Tutsis du Rwanda, alors qu'il y a 20 ans cette semaine, 3 mois de génocide prenaient progressivement fin dans ce pays. Hier, les historiens Jean-Pierre Chrétien et Marcel Cavanda nous ont expliqué comment s'était mise en place ce qu'on a appelé l'idéologie amitique qui a modelé les esprits avant le génocide. Demain, avec Hélène Dumas, historienne du Rwanda et du génocide des Tutsis au Rwanda, nous évoquerons les rescapés de ces 3 mois de massacre à travers la figure de l'un d'entre eux, devenu spécialiste de l'analyse de la mort de masse. Jeudi, nous débattrons de la micro-histoire en ce qu'elle s'applique au génocide et aux crimes de masse du XXe siècle. Et aujourd'hui, nous vous proposons dans ce documentaire de suivre un groupe de chercheurs français, historiens, philosophes, anthropologues, dans un voyage d'études de 10 jours au Rwanda, mené par Stéphane Audouin-Rouzeau et Hélène Dumas, tous deux spécialistes de cette histoire. Ils ont été surpris et parfois même choqués par ce qu'ils ont vu dans les mémoriaux ou encore lorsqu'ils allaient dans une fosse commune ou auprès d'une fosse commune ouverte après 20 ans, donc après les 20 ans de ce génocide. Ce documentaire, 10 jours au Rwanda, est signé Séverine Cassard avec Hélène Dumas, Stéphane Audouin-Rouzeau, Annette Becker, Henri Rousseau, Elisabeth Claverie, Nicolas Vert, Martin Mouosa, Emilienne Moukansoro, Yann Giraud et Mathieu Ponvonville.
Pardon ?
Ça a été trouvé quand ?
On connaît l'endroit depuis 95, ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, on connaissait l'endroit, mais on a décidé d'exhumer et puis d'enterrer de nouveau, quoi.
10 jours au Rwanda. Un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Séverine Cassard.
Là, il y a des restes à l'intérieur. Dis-moi juste, si vous rentrez, dites-moi juste, enfin, je ne vais pas avoir des corps.
C'est des os.
Tu vois, je comprends pas, ils étaient enterrés.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, en fait. C'est pas les corps. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais... Et eux, ils sont vivants. Ce qui me frappe, c'est leur air, quoi. Ils ont une espèce de distance que nous, on n'a pas. Mais c'est complètement paradoxal, tu vois.
Il faut être capable de l'affronter. Sinon, on reste dans les livres. Donc c'est tous des rescapés qui sont groupés là-devant.
Et c'est un enfant de rescapé qui fait le nettoyage des corps, j'ai entendu là.
J'ai l'impression, oui. Ouais. On a l'impression que les permanents, en quelque sorte, là, du site, sont tous des rescapés, surtout des femmes, mais pas seulement.
Ce qui m'a éclaté, c'est les sacs du fond.
Et avec la terre.
Ouais.
On n'arrive plus à séparer.
La terre et la chair.
Parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, on va vers la troisième réinhumation.
Ouais.
Une première inhumation, exhume le massacre, on bascule dans les fosses, on les sort... Et on les réinhume en 95, on les exhume de nouveau, et on les réinhume donc le 20 avril de 2014. Donc en fait, il y aura eu 2 exhumations et 3 inhumations, si on peut appeler ça des inhumations, notamment pour la première.
Et votre travail, Martin, là, c'est d'expertiser quoi exactement ?
Oui, c'est donner des conseils. Vous voyez qu'on a séparé les crânes, les fémurs, les tibias, tout ça.
Martin Mouosa de la Commission nationale de lutte contre le génocide.
Donc, je vais examiner qu'est-ce qu'on va mettre dans les cercueils, qu'est-ce qu'on va laisser qui sera exposé au mémorial. Parce qu'on doit quand même avoir cette attitude d'avoir l'observation et puis connaître l'état de décomposition d'abord du corps et puis prendre une décision relative à l'observation qu'on vient de voir, quoi, de regarder.
La colline de Kinazi. Un détour entre 2 lieux de mémoire du génocide. On y assiste au tri des restes humains exhumés d'une fosse commune, vieille de 20 ans. Ils et elles sont là, jeunes chercheurs travaillant sur le Rwanda ou universitaires plus expérimentés, spécialistes des crimes de masse et des génocides du XXe siècle, guidés par Hélène Dumas et Stéphane Audouin-Rouzeau qui travaillent tous deux sur le génocide des Tutsis du Rwanda. pas forcément préparés pour affronter les crânes et les fémurs blanchis posés sur des étagères dans la fraîcheur des mémoriaux. Mais ils sont là, historiens, anthropologues, philosophes, en ce début avril 2014, dans un pays en pleine préparation des commémorations. Stupéfaits et stupéfaites par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent de la bouche des survivants. Car les massacres sont proches et les témoins sont jeunes. Saisis par ce qu'ils ont senti ou vu derrière les bâches bleues soutenues par des piquets akinazis, ils vont, pendant 10 jours au Rwanda, utiliser leur savoir et leur connaissance des processus génocidaires pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ici, 2 décennies plus tôt. Un séminaire en plein air où, modeste, ceux qui savent apprennent de la bouche de ceux qui ont vécu les massacres que malgré les travaux historiques, il reste une part incompréhensible dans ce génocide.
On ne peut pas dire qu'on a tout compris. Il y a beaucoup de zones obscures qu'on ne maîtrise pas encore.
Paul Routaillé-Siré, historien.
Parce que dans notre cas, la participation populaire, c'est une des caractéristiques du génocide des Tutsis. Alors, pour comprendre cette participation populaire, on ne peut pas que la situer au niveau le plus haut. Oui, le niveau le plus haut a donné des ordres. Il a contrôlé, coordonné, ça c'est au niveau gouvernemental. Mais les exécutants sont les plus nombreux. Ce sont les citoyens, ce sont les voisins. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut cette fois-ci voir comment l'exécution s'est faite au quotidien. Qu'est-ce qui a obligé un tel ou bien une telle à s'engager dans le projet génocidaire? Qu'est-ce qui s'est passé en la personne elle-même lorsqu'il fallait poser tel acte? Ça, c'est vraiment, ça reste tout un champ, je pense que... Est-ce que nous en saurons davantage? Je ne sais pas. Mais je doute toujours que quelqu'un dise « Oui, je comprends le génocide 100%. » Je crois que ce niveau-là, personnellement, je ne vois pas si on l'atteindra d'aussitôt.
Je vous présente M. Léon. C'est notre agent ici au mémorial de Nyamata. Je vous présente le groupe. Hélène, tu peux présenter le groupe quoi, en général?
Merci, bonjour. En fait, on est venu, petite délégation de chercheurs français, rwandais, une équipe de France Culture. L'idée, c'était de venir voir les mémoriaux, apprendre l'histoire du génocide en écoutant les rescapés et en visitant les lieux des massacres. Et c'est pour ça qu'on est évidemment venu à Nyamata aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, je crois, c'est la première fois que des gens viennent au Rwanda et qui vont visiter donc un mémorial du génocide.
Je m'appelle Léon. Je suis ici pour vous aider à visiter, à apprendre l'histoire du génocide. En 1994, c'était vraiment une catastrophe. Beaucoup déjà été massacrés, été génocidés à l'extérieur de l'église et même à l'intérieur de l'église. Vous pouvez imaginer 11 000 personnes massacrées ici, seulement pendant un jour. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens étaient massacrés à l'intérieur parce que beaucoup de gens étaient juste trop serrés. C'est-à-dire que même les génocidaires ne peuvent pas en entrer pour massacrer les gens. Ils ont utilisé des grenades, ils ont jeté les grenades à l'intérieur, ils ont tiré les gens. Et par après, quelques-uns entrent à l'intérieur de l'église pour vérifier s'il y a quelqu'un qui résiste. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient sous des bancs. Mais malheureusement, tous étaient massacrés à l'intérieur de l'église. Vous voyez comment chacun ici a une fracture. Mais pour les femmes, la plupart d'elles étaient violées par les milices Hutus. Et après, ils ont tué les dames. Ils ont tué les dames. Quelqu'une qui est dans un cercueil là-bas, elle s'appelle Mukando Annonciata. Et elle a été violée par 9 foules de gens. Et malheureusement, après ça, elle a été génocidée en utilisant une lance, le tison, vous voyez. Et puis on l'a inséré dans ses organes génitaux jusqu'à la tête.
Stéphane Audouin-Rouzeau, historien.
Jusqu'en 2000, cette femme, son cadavre, son squelette était visible dans une petite pièce à côté. Mais le spectacle était tellement traumatisant que le gouvernement a décidé de la mettre dans un cercueil, avec la croix sur ce cercueil. C'est un peu dans le fond de la crypte, là, la victime emblématique, si tu veux, notamment pour toutes les femmes violées, massacrées, torturées de manière spécifique. Et tu vois comme on voit de manière extraordinairement nette les traces des machettes, justement. Donc c'est là que... Quand on dit oui, enfin, génocide à la machette, tout ça, etc. Quand tu regardes bien.
Ah oui, là, tu vois très bien, là.
T'as une violence, tu vois, des pratiques corporelles. Dont la trace est là, directement visible, tu vois. Il y a des visages qui ont été à moitié emportés. Tu vois.
Et puis, à partir des cicatrices, c'est quoi, des machettes, on peut retracer la position de l'attaque, de défense, et tout ça. Mmh. Oui, ce qu'on appelle physical trauma.
Les gestes de la mort, en fait.
Oui, oui.
Ces crânes ont été exhumés.
Ils ont fait partie des crânes exhumés. Donc, quand ils ont exhumé, oui, ils ont enlevé les vêtements, ils ont gardé là.
D'accord.
Et puis, ils ont gardé un certain nombre de crânes de manière emblématique. Mm-hmm. Là où on ira à Morambi, au contraire, une partie des corps est restée exposée. Pas seulement les squelettes, mais les corps eux-mêmes, traités à la chaux, enfin, qui ressemblent un petit peu comme à des momies, un petit peu, tu vois. Et on voit effectivement, à ce moment-là, le traitement spécifique du corps, parce qu'on frappe au visage, mais on frappe aussi à des endroits très importants, les mains, les jarrets, etc., d'Achille, etc.
Ce qui me frappe, c'est...
Elisabeth Clavry, anthropologue, spécialiste de l'ex-Yougoslavie.
Le rapport au corps, dans la région sur laquelle j'ai travaillé, en ex-Yougoslavie, qui met en cause des victimes musulmanes, est extrêmement différent, puisque... Quand on organise les réenterrements, en tout cas à Srebrenica par exemple, on le fait sans jamais montrer. On montre des petits cercueils en bois, quelle que soit la chose qu'il y a dedans, mais jamais, jamais on ne montrerait des ossements par exemple. Et les mémoriaux sont des mémoriaux beaucoup plus classiques, qui sont encore marqués par l'iconographie de la Yougoslavititis d'une certaine manière. Ici, au contraire, dans les mémoriaux, on expose les corps qui montrent la gestuelle présentée dans une phase exposition. Tandis que en Bosnie, toutes ces phases sont lues dans les fosses par les interprètes des scènes de crime, puisque la grande innovation des tribunaux internationaux aujourd'hui, que ce soit l'ADPI ou le CPI, c'est de traiter la guerre comme une scène de crime, avec des techniciens de scène de crime, et tout à coup, les viols, les cruautés sur les corps, les découpes, etc., etc., sont devenus lisibles parce que ce sont des interprètes de fosses, de la médecine légale et tous les métiers qui tournent autour des fosses qui interviennent.
Présente mon collègue Stani, il s'occupe du site mémorial de Ntarama comme guide. Chaque mémorial a ses particularités, c'est ce qui s'est passé à chaque mémorial. À vous la parole.
Merci beaucoup. First of all, I'm sorry. Premièrement, soyez le bienvenu au site mémorial du génocide de Ntarama, là où plus de 5000 Tutsis ont été massacrés quand ils étaient venus ici comme des réfugiés. Ici, c'était l'église catholique. Quelques Tutsis étaient à l'intérieur de l'église et les autres étaient à l'extérieur de l'église. Et ils étaient attaqués le 15 avril. Les milices qui étaient venues de tuer les Tutsis qui étaient ici, ils étaient aux trois catégories. Il y avait les soldats, les militaires, et les autres milices qui ont été entraînés pour tuer les Tutsis. Ils ont connu sous le nom des Inhelhamwe.
Puis il y avait la population qu'on a mobilisée pour les aider à tuer.
L'église de Ntarama est petite, encombrée de cercueils recouverts de tissus violets ou gris comme la cendre. Des objets du quotidien, gamelles, binettes, matelas de mousse, sont posés ici ou là, au sol ou sur une étagère. Il fait sombre et personne ne sait vraiment comment se comporter. Est-ce un musée? Un mémorial? Est-ce encore même une église? Yann Giraud, diplomate français au Rwanda, raconte à Mathieu Potbonneville, philosophe et responsable à l'Institut français des programmes de sciences humaines, ce qu'il a vu ici même, quelques années plus tôt.
Quand tu arrivais ici, le premier souci pour toi, c'était d'éviter de marcher sur les morts. T'entendais vraiment les os craquer sous la semelle, pardon. C'était insupportable. Donc, les gens qui venaient dans cette église, passait de banc en banc, mmh. Tout, il marchait par-dessus les corps. Et puis après, à partir de 2006, ils ont ramassé tous les os, mais aussi, ils n'étaient pas dans cet état-là, tu vois, t'avais encore les cheveux, t'avais toutes sortes de choses. Et donc, tout était mis dans des sacs de farine de manioc. Et puis, à cette nouvelle disposition un peu étonnante, tous les corps sont désarticulés, si tu veux, on sépare les têtes, les tibias. Alors, l'explication qu'ils donnent généralement, c'est pour faciliter la comptabilité du génocide. Donc, c'est que deux tibias font une personne. Mais tu veux, en termes de. Tu ne retrouves pas les personnes parce que tu as un corps désarticulé. Et ça, c'est troublant, mais c'est une question que j'aimerais bien leur poser, mais j'ose pas.
Comment ils ont choisi de mettre certains corps en cercueil et d'autres pas?
Alors, tu as des cercueils où tu as 100 personnes. Tu en as certains où tu n'as qu'une seule personne parce qu'on n'a plus l'identifier clairement.
D'accord.
Par exemple, tu as des assassins qui ont dit voilà, c'est dans telle fosse, il y a telle personne que j'ai tuée. Donc, on a pu nettoyer son corps, le mettre dans un cercueil. Et puis procéder à son inhumation officielle pour lui redonner une véritable identité. Quoi. Je peux te poser une question?
Oui.
Pourquoi on a séparé de façon aussi systématique c'est les parties du corps?
Ah, bon, avant, juste après le génocide, hein, donc le corps était rangé dans les bancs, tout ça, ici, partout. Et puis, il y avait cette façon de décomposition tout au long du temps, aussi les ossements, tout comme ça. Et puis, on a décidé, c'est mieux de les prendre, et puis les laver, et puis les langer, de façon qu'on peut les visiter, on peut trouver que c'est dignitaire, quoi. C'est un peu d'ordre, quoi.
Et on a, personne n'a eu l'idée ou l'envie même de reconstituer une personne?
On a idée, mais on n'a pas assez d'espace pour les constituer. C'est facile de mettre les crânes quoi, et puis avec les autres membres du corps, que ce soit les fémurs, que ce soit les tibias, tout ça. Mais avec quel espace d'abord? Tu vois, ici à l'intérieur de l'église même, il n'y a pas assez d'espace. Et compte tenu du projet que nous avons initié de la conservation à long terme, que ce soit des ossements, que ce soit les habits, que ce soit les outils des réfugiés, que ce soit les armes qu'on a utilisées, nous devrions les conserver à long terme. À ce moment-là, il nous faudra un nouveau bâtiment avec équipement adéquat, tout en sachant que nous ne devrions pas changer complètement la signification des preuves du génocide.
Les organisateurs avaient averti l'ensemble des participants. Murambi n'est pas un mémorial comme les autres. Murambi est une épreuve. On n'y voit pas que des ossements, mais des corps asséchés, momifiés, saisis dans leur mort. C'est une épreuve aussi car, comme à Bicécéro plus tard, c'est un des lieux où nos guides évoquent l'opération turquoise, cette opération militaire française sous l'égide de l'ONU qui devait mettre fin au génocide et dont la mise en œuvre, en juin-juillet 1994, reste un des points centraux des affrontements récurrents entre gouvernement rwandais et gouvernement français.
Je vous présente mon collègue Gaspard Mukwiye. C'est un collègue et puis en particulier un ami parce que on est originaire de Nyamata, nous deux. Il travaille ici à Murambi comme guide du mémorial. Donc Gaspard, ça c'est le groupe de chercheurs français. Donc tu vas donner un peu historique de Murambi, un peu de moi. Merci.
Merci beaucoup. Merci d'abord de l'initiative de venir ici, de votre travail, de cet esprit de compassion envers les Rwandais et les rescapés du génocide en général. Ici, c'était une école technique en construction au niveau secondaire qui devrait être l'internat. Mais juste ici a été tué plus de 50 000 Tutsis au moment du génocide. Et toutes ces victimes, ce n'était pas le choix de venir se cacher ici, parce qu'ils étaient d'abord partis se cacher à la paroisse, aux hôpitaux, mais ils ont été forcés par les autorités locales, tant civiles que militaires, à venir ici. Alors, le mental que c'était pour leur protection, mais c'était une façon de les concentrer en un seul endroit pour pouvoir les exterminer. C'est une colline stratégique. Comme vous le voyez, c'est une colline encerclée par d'autres collines, beaucoup plus élevées qu'elle, de façon qu'il n'y avait pas moyen de survivre, ce qui est un milieu efficace pour les planificateurs du génocide. Son centre mémorial comprend différentes parties. La première partie, c'est le musée, bien sûr. La deuxième partie, c'est les sépultures, c'est là où sont inhumés les corps des victimes. La troisième partie, il y a les chambres qui abritent les corps, qui sont les corps non détériorés. Et puis, quatrièmement, nous avons, il y a là où était la position des soldats français pendant l'opération turquoise. Et il y a aussi là où étaient les fosses communes, bien sûr, là où ont été exhumés les corps des victimes qui sont inhumés dans les chambres. Voilà différentes parties. Alors, on va faire le tour ensemble.
On est entré dans une chambre, la première de cette pièce à Morambi. Et ce qu'on voit ici, ce sont sur des clés de bois, des corps chaulés, tout blancs, décharnés évidemment, dont on découvre à la fois les muscles, mais également les expressions du visage. Certaines d'entre elles sont paisibles, mais beaucoup d'autres sont grimaçantes. Et ils sont, je sais pas, une soixantaine, 70, peut-être 100 corps dans cette simple pièce. Et il y en a d'autres ensuite. Deuxième pièce. La deuxième pièce, ce sont des enfants, oui. Des dizaines de corps d'enfants qui sont recroquevillés, là aussi dans la chaux. Ils sont entassés les uns sur les autres, comme dans une sorte de dortoir mortuaire. Et certains d'entre eux ont encore leurs cheveux sur le crâne.
Ces corps étaient jetés dans très peu de fosses communes. Ils étaient très nombreux dans très peu de fosses communes. Mêlés avec le sol, une couche de corps, puis une couche de sol, jusqu'au sommet. Une autre raison qui peut justifier pourquoi quelques corps n'étaient pas du tout détériorés, c'est que pendant l'opération turquoise, depuis juin, juillet, août 1994, on va vous le montrer, là où était une fosse commune sur laquelle les soldats français jouaient au volet sur une fosse commune. Et cela peut justifier aussi pourquoi quelques corps n'étaient pas du tout détériorés, parce que la fosse sur laquelle on joue chaque jour, le sol en bas est compact et les corps en bas ne pouvaient pas facilement se détériorer. Et voyez comme pour ces victimes, ils gardent toujours les cheveux naturels. C'est ainsi qu'ils ont été découverts. Et comme j'ai dit que c'est la preuve d'innocence qui peut justifier réellement le poids du génocide perpétré contre les Tutsis, voilà un exemple typique. Voyez la personne ici. D'abord, il est mort en criant, comme vous le voyez. Et puis, comme vous voyez les gestes de ses bras, il essayait de se protéger contre les cadavres, ce qui ne peut pas être fait par quelqu'un qui est mort.
Henri Rousseau, nous sommes au troisième jour de ce voyage donc, d'études au Rwanda et on est au mémorial de Morambi. Et on vient de visiter les chambres dans lesquelles sont sur des clés installées des cadavres momifiés, pourrait-on dire, de jeunes hommes, de femmes, de jeunes enfants. Quelle est l'impression que ça vous fait, là, maintenant, sur l'usage qu'on peut en faire en tant qu'historien ou pas?
Bah, d'abord, on reste sans voix, enfin, pardonnez-moi, mais j'ai beau travailler sur la guerre depuis longtemps, j'ai jamais vu autant de cadavres. Et ce qui est frappant dans la politique de commémoration ici, c'est la... cette volonté de montrer les corps et les cadavres, qui est très frappant, systématique. C'est vrai, ça me fait penser à des discussions qu'on a eues entre chercheurs il y a une quinzaine d'années sur jusqu'où peut aller le travail de l'historien, bon, éventuellement l'anthropologue, je ne sais pas, dans tous les cas l'historien. Une fois qu'on entre dans des lieux comme ça, où on est en contact direct des corps suppliciés, martyrisés, etc., qu'est-ce que l'historien peut en faire? Enfin, pour employer une image, j'ai envie de rester à la porte. Comme historien, j'entends. Même si je sais que Stéphane, heureusement, ne sera pas d'accord avec moi. Mais d'ailleurs, je réfléchissais depuis quelques jours ici à quel point ce qui s'est passé, notamment au Rwanda, ou ce qui s'est passé dans d'autres lieux, où il y avait un tribunal international. Et donc la question des fosses, l'exhumation des cadavres, l'analyse des gestes, etc., était importante pour ces tribunaux. C'est quelque chose qui est apparu très tard dans l'histoire, par exemple, de la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. L'exhumation des fosses en Ukraine et tout ça sont très tardives. Enfin, à des fins, j'entends, scientifiques, historiques. Et c'est vrai que ça pose énormément de questions sur la manière de travailler. Bien sûr qu'un cadavre, en soi, peut être une source. Enfin, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez effrayant. Il y a une limite qui, je pense que les générations futures, peut-être, arriveront à franchir plus aisément. Moi, j'avoue que j'ai énormément de mal. Si je voulais aller jusqu'au bout de mon raisonnement et si je n'avais jamais discuté auparavant de tout ça, je dirais, mais qu'est-ce que tu apprends de plus que tu ne savais déjà par les témoignages, les documents, les images?
Les témoignages disent pas grand-chose de l'énergie meurtrière des bourreaux. À quel point les bourreaux ont été mobilisés, saisis par leur propre violence. Je vois la gestuelle des bourreaux. Je la vois très bien même.
Comment on a fait jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que, encore une fois, je me trompe peut-être, mais cette façon d'aborder les massacres, les grands massacres de l'histoire et tout ça, par l'analyse des cadavres, est consécutive de la présence de fausses et de fait que ces fausses ont été exhumées pour d'autres raisons. À part le père des bois, jusqu'à là, les historiens ne partaient pas en mission pour aller exhumer des fosses pour les étudier comme ils vont aux archives. Ils ont travaillé sur des fosses qui avaient été exhumées pour d'autres raisons. Je ne nie absolument pas l'intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, la question ne se poserait pas. Je me dis, est-ce qu'il faut reculer les frontières de l'éthique de l'historien? Et je parle historien parce que c'est ma discipline, je pourrais parler d'autres disciplines. Mais...
Est-ce qu'on peut choisir? À partir du moment où tu es là et que tu le vois, tes frontières sont déjà reculées.
Problème. Oui, non, mais je suis d'accord avec
toi. Tu n'as même plus le choix, elles sont déjà reculées.
Nicolas Werth, vous êtes historien, historien de l'URSS, de l'Union soviétique. Vous avez travaillé beaucoup autour des questions de terreur stalinienne. Vous avez travaillé également sur la grande terreur de 1937-1938, sur les fosses communes qui accompagnaient cette grande terreur, sur le cannibalisme qui quelquefois a eu lieu lors de cette grande terreur ou d'autres moments du stalinisme. Vous êtes depuis plusieurs jours dans ce voyage d'études au Rwanda. Vous découvrez ce terrain que vous ne connaissez pas du tout. Néanmoins, vous avez une connaissance de ce qu'on peut appeler la mort de masse à travers justement cet exemple de l'Union soviétique. Qu'est-ce qui vous a frappé pendant ces visites dans les mémoriaux, sur les lieux même parfois des massacres?
Évidemment, la monstration d'abord. Enfin, c'est la première fois, par exemple, que je sens l'odeur de la mort. Bon. Je sais que mon père m'en avait parlé et avait beaucoup écrit dans son livre sur la Russie en guerre, sur l'odeur des charniers qu'il a connue lorsqu'il était correspondant sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale à l'Est. Et donc je me suis senti très mal à l'aise hier lorsque, pour la première fois, voilà, j'ai ressenti ça. Et puis, évidemment, aujourd'hui, à Murambi, la vision démonstratrice des corps avec ce statut incertain, en tout cas incompréhensible pour moi, de ces corps qui ne sont ni des squelettes ni des cadavres, mais dans cette sorte d'entre-deux, recouverts de chaux. Bon, la seule chose un peu identique que j'avais vue, c'était évidemment à Pompéi. Alors ce qu'on voit justement, ces corps figés par la lave volcanique. Bon, personnellement, je me suis senti très mal à l'aise parce que je ne savais plus où j'étais. Je n'étais ni à côté d'une fosse commune, en tout cas telle que moi je les connaissais, ni dans un cimetière, ni dans un mémorial. Enfin, en tout cas, le type de mémorial que je connais. Donc d'abord un sentiment de ne plus avoir ses repères, donc ça c'était quand même très troublant. Moi personnellement, je pense que ce côté extrêmement monstratif, émotif, ne facilite pas la compréhension intellectuelle, peut être même un obstacle. Bon, ceci dit, il y a aussi plein de niveaux de connaissances, on peut lire un livre, on peut travailler dans les archives et ensuite on peut venir sur le terrain, sentir la situation.
Hélène Dumas, vous êtes l'organisatrice de ce voyage avec Stéphane Odorouzeau qui a conduit donc des chercheurs français, historiens, philosophes, anthropologues au Rwanda pendant une dizaine de jours. On sait que vous n'êtes pas une adepte d'une histoire froide. Vous pensez qu'effectivement l'histoire doit se confronter aussi avec tous les sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et puis aussi le cœur. Donc est-ce qu'on arrive à faire le départ justement entre le sujet que l'on doit traiter avec la froideur nécessaire, supposée en tous les cas du chercheur, et puis de l'autre côté les émotions qui vous assaillent quand on se promène ici, et vous êtes promenée souvent ici, Hélène Dumas?
Je crois d'abord qu'on n'a pas le choix. Si on a un temps soit peu derrière sa carapace de chercheur, une once d'humanité, je crois que tout le monde ici est dans les mêmes dispositions que moi, je ne suis pas du tout la seule, eh bien on n'a pas le choix que d'être confronté aux affects des autres d'abord et puis à ses siens propres. Lorsqu'on est confronté aux traces de l'extermination, à ses corps d'enfants en particulier, à ses traces matérielles de la disparition des enfants, comme on l'a vu à Narama, ces petites ardoises d'enfants que les enfants avaient amenées dans l'église avant de se faire massacrer, lorsqu'on est confronté à cette parole si douloureuse des rescapés, comment faire autrement que de ne pas être affecté? Et je crois personnellement que cette commotion morale et affective me semble nécessaire à la pleine compréhension de ce génocide et à la pleine compréhension également de toutes les difficultés que représente le vivre ensemble au Rwanda aujourd'hui. Souvent, on a des idées préconçues sur la réconciliation, sur le fait que le pays avance, etc. Eh bien, on est confronté ici à une parole tout autre à travers celle des rescapés qui montre toute la difficulté de cette entreprise politique. Et je pense que d'un point de vue tout simplement de recherche, les gens nous parlent aussi parce qu'ils sentent qu'on participe effectivement à leur histoire. Si on restait complètement froid, complètement extérieur, eh bien, on n'atteindrait pas cette parole si intime, parce que là, on va dans l'intimité de ce que les gens ont vécu, eh bien, on n'aurait pas accès à cette parole. Et d'un point de vue tout simplement d'efficacité de recherche, je pense que la mobilisation, là, involontaire, hein, mais des affects, est productive de sens, de connaissance et d'accès au terrain.
Emilienne Mukansoro est une survivante. Après avoir perdu toute sa famille dans le génocide, elle a milité dans l'association de mémoire Ibuka, est devenue psychothérapeute et suit désormais des groupes de parole de survivants du génocide.
Avant de faire ce voyage, je n'avais pas de force pour visiter les sites mémoriaux. J'avais pas de force, j'ai connu le génocide, j'ai connu l'horreur, mais je me sentais incapable d'affronter la réalité, parce que c'est comme si je voulais un tout petit peu oublier ce qui s'est passé. Quand j'ai fait ce voyage, quand j'ai visité les sites mémoriaux avec le groupe, c'est comme si j'avais besoin de la présence de l'autre. Oui, je me suis souvenu de ce qui s'est passé, ça m'a rappelé tout ce que j'ai subi, mais en même temps, c'est comme si j'étais poussée par quelque chose de très fort. Et ce qui m'a poussé, c'était la présence de l'autre. Parce que je me suis dit, je ne suis plus seule. C'est ce qui tue les rescapés, c'est l'isolement. Quand tu as perdu tes siens, alors que et aujourd'hui tu te sens seule, ce n'est pas une vie. Et quand tu sens qu'il y a l'autre qui comprend ce que tu as subi, qui te soutient, qui te pousse à la vie, voilà, tu es poussée. tu peux faire beaucoup de choses. C'est ce que je sens aujourd'hui.
Il s'appelle Guamasi Arois, c'est un escapé de la région. Il est président d'Ibuka au niveau du secteur. Et puis c'est lui qui est chargé du mémorial d'ici de Nyagé. Juste le 14 dans la matinée, il y a eu une attaque générale des interahamwe parce que les gens sont réfugiés à l'intérieur de l'église comme d'habitude. Là où nous sommes, c'est là où les femmes et les enfants ramassaient les pierres pour les entasser. Et puis, c'est là où les hommes venaient prendre les pierres pour aller faire le combat avec les milices. Quoi. Donc, il y a eu une résistance. Juste le 15, les milices sont venues. Ils ont utilisé des grenades pour affaiblir les réfugiés. Ils ont fusillé à l'intérieur. Et puis, ils ont trouvé que ce n'est pas facile d'exterminer les gens complètement. Ils ont essayé d'utiliser l'essence pour y mettre du feu. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont utilisé aussi la dynamite pour détruire l'église. Ils ont échoué. Alors ils ont décidé d'aller apporter le caterpillar. Pour le caterpillar, il n'y avait pas de mazout pour mettre le caterpillar en marche. Donc l'un parmi les commerçants a dit, moi je m'en charge du mazout pour que le caterpillar puisse venir et puis détruire l'église. Avant de détruire l'église à l'aide du caterpillar, le caterpillar a creusé une fosse commune dans laquelle on a mis les cadavres de ces jours précédents puisqu'ils étaient par pied partout aux alentours de la paroisse. Donc le caterpillar a d'abord mis les cadavres dans la fosse commune. Le 16, ils sont venus avec les gendarmes et les policiers de la commune. Le bourgmestre était avec eux. Il y avait le juge de la région, Abiyambere. Abiyambere a dit, bon, inutile de continuer à perdre du temps. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser le caterpillar pour détruire l'église? À ce moment-là, le chauffeur a demandé, vous décidez que je détruise l'église? Puis M. Labé a répondu, tu fais ce qu'on t'a demandé, puisque les Hutus, nous sommes très nombreux, nous allons construire une autre église, une nouvelle église. Donc fais ce qu'on t'a demandé. M. le curé lui a ordonné de commencer là où il y avait le sacristie. Il a commencé par là. Et puis, il y avait un cortège des interahamwe à l'extérieur des milices et des militaires aussi, des policiers de la commune qui tuaient les gens. Et puis, les gens qui étaient à l'intérieur, vous imaginez les débris des briques quoi tombés sur eux. Et puis, il y avait d'autres femmes qui les accompagnaient, les femmes des milices, quoi, qui venaient prendre les habits des victimes à l'intérieur, même des chaussures, tout quoi, les biens des réfugiés.
Il n'y a pas des gens qui ont essayé de se réfugier dans le clocher?
Non, parce qu'on contrôlait tout. On fouillait partout pour voir s'il y a les gens qui ont échappé.
Donc l'église est complètement détruite le 17, en fait.
Oui.
Et combien il y avait de personnes à l'intérieur?
Exagération. C'est à peu près 3000.
3000
personnes. Oui.
Je suis persuadé qu'il y a une dimension sacrale du massacre.
Stéphane Audouin-Rouzeau.
Et puis une fois que j'ai dit ça, personnellement,
ils sont tous catholiques.
Ils sont tous catholiques.
C'est aussi pour dire, ce que je tue là, ils ne sont pas des catholiques.
Et le fait qu'ils soient dans la même religion est justement l'aspect gênant. Donc on les tourne dans l'église, à mon avis, on crée cette négation. Ils répliquent sur certaines statues les pratiques, en particulier de coupe des mains et du nez.
Et
pourquoi les statues sont rabattues du côté de l'ennemi Tutsi?
Les statues sont devenues les statues des Tutsis.
Néanmoins,
Tutsi.
C'était leur église. C'était leur paroisse, leur église, et c'est pas frère, leur prêtre. C'est quand même... moi, je pense qu'on n'a pas d'explication actuellement en termes d'anthropologie, de sociologie religieuse. Je pense qu'on n'en a pas. Et je pense que le problème, c'est de reconnaître qu'on n'en a pas. Ce serait des protestants, il y aurait des catholiques, tout va bien. Il y aurait des catholiques, des musulmans, tout allait bien. Mais le problème, c'est la dimension intra-catholique, la foi profonde des deux parties, et la présence des prêtres de deux côtés. Et tout ce monde-là se connaissant et vivant auparavant ensemble. Écoutez, moi, personnellement, je ne comprends pas. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je ne comprenne pas.
Il n'y a rien à expliquer. On retombe sur la, la rationalité folle, donc la rationalité délirante.
Nous avançons sur un chemin de terre, une route très vallonnée. Nous allons de colline en colline et nous avançons dans une vallée verdoyante. Quelques maisons sont placées de loin en loin sur la colline d'en face. Des petites parcelles travaillées comme toujours au Rwanda où chaque morceau de terrain est mis en culture. Nous allons maintenant rejoindre Bicécéro pour une visite différente de celle que nous avons faite jusqu'alors, car Bicécéro, c'est le lieu de la résistance, une résistance désespérée des Tutsis du Rwanda jusqu'à la mi-mai. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on y construit un mémorial de béton, une sorte de Golgotha sur la colline d'en face, au sommet duquel on installera la tombe d'une sorte de résistant inconnu. Mais c'est aussi le lieu de tension, un lieu de tension entre la France et le Rwanda, car alors que l'opération turquoise était déclenchée, un détachement français s'est rendu sur place avant de repartir et de laisser les survivants désarmés seuls face aux génocidaires.
Les militaires français sont venus ici.
Martin Mouosa.
Donc ce qu'on peut accuser ces soldats, c'est cette façon de ne pas sauver les gens qui sont en danger.
Mais parce qu'il faut expliquer peut-être à nos auditeurs, Martin, que les militaires français sont venus ici, pensant trouver des soldats du FPR qui n'étaient pas là.
Oui, en y arrivant, il n'y avait pas les soldats du FPR. Alors ils ont trouvé des rescapés parce qu'ils sautaient derrière cachette et se sont montrés en disant que bon, ils trouvaient les gens qui allaient les sauver. Alors ils ont dit non, nous ne sommes pas capables de vous sauver. Alors ils sont rentrés à Tibouille. Les ministres ont profité de l'occasion alors d'exterminer les tout ce qui restait.
Les soldats français qui, en fait, en repartant, ont donné le signal pour... Enfin, ont laissé faire, d'une certaine façon, sans peut-être le vouloir, ont laissé faire les forces Hutus.
Ils voyaient que les Hutus étaient prêts à attaquer. À ce moment-là, il devrait y avoir une décision de sauvetage. Soit de rester ici, en informant le chef à Kibouye que c'est grave, ils ont trouvé les survivants, alors il faut les sauver, ou soit contrecarrer donc l'attaque des milices contre les gens qui sortaient de leur cachette. Mmh. Donc là, il s'agissait de prendre une décision sur le contexte, sur la situation, et puis en agir comme un être humain et un militaire qui connaissait les lois internationales humanitaires. Mmh. Ouais.
Nous avons plus de 150 cercueils. Il y a beaucoup d'ossements.
Là, dans ce bâtiment en tôle dans lequel nous sommes, pour l'instant, c'est un bâtiment provisoire.
C'est un bâtiment provisoire.
Annette Becker, qu'est-ce qu'on voit dans ce site mémorial ici, à Bicécéro ?
On voit les restes des victimes, des crânes, avec toutes les sortes de blessures infligées, et énormément d'os, des jambes, des fémurs probablement.
Et dans un bâtiment qui pourrait être un bâtiment agricole, puisque ce sont des piliers de bois avec des tôles autour.
Oui, tout à fait. Ils l'ont construit de la même façon qu'ils construisent leur maison. Ici, on est proche de ce crime qui s'est commis dans la campagne.
Et pourtant, on va déplacer ces morts, ces crânes, ces fémurs, et on va les mettre justement dans un mémorial en béton au sommet de la colline, avec cette idée qu'effectivement, il leur faut la dignité et un site qui pourrait ressembler à des grands sites mémoriaux qu'on connaît partout dans le monde, d'une certaine façon.
Ils ont une très belle formule ici. Ils disent « il faut les enterrer en dignité ». Et j'aime beaucoup cette formule de « en dignité ». Et la dignité, c'est de les rendre comme tous les grands morts de l'histoire. Et ils ont droit à une sépulture exceptionnelle, parce qu'ils sont morts de façon exceptionnelle. Et pour eux, c'est ça la dignité. Et... ce que nous trouvons émouvant parce que c'est plus proche du moment de leur mort, eux, ils veulent peut-être les retirer du moment de la mort et les rendre grands.
Comme des héros.
Comme des héros de cette guerre menée contre des femmes et des enfants qui n'avaient aucune chance de gagner. Et Je crois que quelque part, ils ont raison psychologiquement. Pour moi, c'était la première fois, ce déplacement vers le Rwanda. La première chose, c'est un sentiment de reconnaissance infinie envers vous, les survivants qui nous avez accompagnés toute cette semaine. Vous êtes au cœur du génocide. Vous avez tous perdu votre famille. Vous savez en profondeur ce que nous, on n'arrivera jamais à comprendre. La destruction totale des siens. Nous, on ne comprendra jamais ça. Mais vous nous avez amenés aussi proche que possible de cela par la façon dont vous nous avez parlé, la façon dont vous nous avez montré, la façon dont on s'est déplacé dans ce paysage. Chaque jour, on a vu des gens différents, on a vu des lieux différents. Et chaque jour, je crois qu'on s'est enfoncé plus profondément dans ce que ça veut dire, un génocide. Et pour cela, pour nous, les chercheurs qui travaillons depuis des années et des années sur les violences, et en particulier sur les violences génocidaires à différentes périodes du XXe siècle, je crois que ce voyage est quelque chose d'inestimable. Moi, je peux le dire, ça paraît un peu grandiloquent, mais je suis sûre que ça a changé ma vie.
Nous sommes au bord du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Avant notre retour à Kigali, Emilienne Mukansoro, rescapée du génocide, a tenu à nous conduire sur les ruines de sa maison familiale.
La maison que j'ai construite, ce n'était pas la maison de ma famille, c'était la maison que j'avais construite avant de me marier. Mes parents m'avaient payé mes études, il fallait que je construise une maison, c'est d'ailleurs là où j'ai fait mon mariage. Mais on a tout détruit, tout, il n'y a même, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a même pas de pierre, il n'y a rien. Alors, en 1999, je me suis dit il faut que je construise quelque chose dans ma famille. J'ai construit, j'ai mis des tôles et on a détruit en commençant par le sommet. Quand ça a fait troisième fois, je me suis dit il faut que je sache pourquoi je construis et on détruit. Alors j'ai poursuivi des gens qui ont détruit, j'ai demandé, j'ai eu des gens vraiment qui, je dirais des délinquants. Mais ce n'était pas des délinquants qui ont pris l'initiative de détruire la maison, c'était le conseiller du secteur. Le conseiller du secteur avait fait le génocide. Ils ont dit si la jeune fille est construite chez elle, je suis en danger. Alors il a commandité les délinquants pour détruire encore la maison. Ici, nous étions 11, comme je vous ai dit ça. J'avais 7 frères et 3 petites sœurs. On vivait tranquillement ici, c'était pas, on avait déménagé ici en 73, comme je vous l'ai dit, mais on était tranquille. Moi, j'ai quitté la maison en 93. Je me suis mariée au début 93 pour ne jamais revenir, parce que quand je suis revenue, il n'y avait plus personne. Ah, voilà, je ne sais pas si vous voulez connaître autre chose.
La personne qui a fait détruire la maison après, elle a été poursuivie ensuite?
Non, en fait, j'ai fait arrêter les délinquants. Et par après, je les ai approchés. Ils m'ont dit, c'est pas nous tueurs que tu n'es pas de maison. Et j'ai dit, il faut les lâcher. Et j'avais pas de témoins, des épreuves pour le conseiller. Alors j'ai abandonné. Avant d'abord qu'on aille s'abriter parce que je vois que la pluie tombe, j'aimerais bien vous remercier. Vous m'avez ouvert les yeux. Quand j'ai fait voyage avec vous, c'est comme si je recommence une nouvelle vie. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'écrire l'histoire de ma famille, j'ai envie de raconter à ma fille son histoire parce qu'elle me pose toujours des questions. J'ai envie de construire ma maison familiale parce que je sens que je suis plus seule. Vous arrivez chez moi, il n'y a rien, je n'ai rien pour vous accueillir, je n'ai rien pour vous abriter. Et vous avez accepté d'arriver chez moi le soir et je me disais peut-être que vous vous sentez obligé. Mais je suis que vous n'étiez pas obligé, vous avez voulu venir vous-même. Et ça,
C'est beaucoup.
Soulagement.
C'est beaucoup pour moi. J'ai envie de reconstruire la maison parce que ce n'est pas la même période. Avant, peut-être on avait peur des témoins dans le judiciaire Gachacha. La personne qui habite ici m'a promis que si jamais je construis, peut-être il va surveiller. Je vais aussi faire un monument. Comme je n'ai pas pu enterrer les corps de miens, je n'ai rien trouvé comme corps. Alors j'ai envie de faire un petit jardin devant peut-être ou derrière, je ne sais pas. Mais faire un petit monument où je vais écrire tous les noms des membres de ma famille.
Combien il y a de noms en hiver?
C'est beaucoup, parce qu'à part les 11, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a ceux qui tous sont morts.
Il restera quelque chose.
Oui,
il restera.
Oui, oui, j'ai peur d'oublier les noms. C'est parce que c'est nombreux. Alors, il y a là une chambre pour les visiteurs. Quand vous allez revenir, on va passer la nuit ici. Si vous voulez bien. Quand vous allez venir, on va passer la nuit ici. Je vais. Il faut commencer les réservations.
On ira puiser de l'eau.
Ah, on peut puiser de l'eau de l'autre côté.
Tu peux entrer?
Oui, vous pouvez.
Tu veux bien?
Ouais, vas-y.
Ça, c'est le premier séjour qu'on fait. C'est le premier séjour qu'on fait dans la maison. Oui, mais pas trop cher parce que.
Dix jours au Rwanda avec Martin Mouosa, Emilienne Moukansoro, Stéphano Danrouzeau, Hélène Dumas, Annette Becker, Henri Rousseau, Nicolas Verte, Elisabeth Clavry, Paul Routaï-Siré, Yann Giraud et Mathieu Pot-Bonneville. Merci aux services de l'Institut français à Paris et à Kigali qui nous ont aidés tout au long de ce périple. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi ce voyage d'études, nous ont accompagnés et à ceux dont nous avons croisé la route lors de ces 10 jours au Rwanda, un documentaire d'Emmanuel Laurentin et Séverine Cassard, prise de son Eric Audra, mixage Olivier Dupré. Cette semaine consacrée au génocide des Tutsis du Rwanda et des Hutus modérés, comme on dit généralement lorsqu'on parle de ce qui s'est passé là-bas il y a maintenant 20 ans, en 1994. Et demain, nous parlerons des survivants avec un témoignage, celui de Martin Mouosa, mais également l'analyse de Hélène Dumas, docteur en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de ce génocide et auteur, entre autres, du génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda aux éditions du Seuil.